On vous propose à présent un voyage, en quelque sorte. Un voyage au cœur d'un endroit aussi mythique que discret, avec ceux qui l'ont dirigé. On a beaucoup de chance aujourd'hui dans l'affaire suivante, Dominique. Le 36 quai des Orfèvres, sur les quais de l'île de la Cité à Paris, dans l'une des ailes de l'ancien palais de justice, le siège de la PJ, le siège de la police judiciaire de Paris, pendant plus d'un siècle. Bonjour Claude Cancès. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Affaires suivantes. Vous êtes l'ancien patron de la PJ parisienne. Au milieu des années 90, vous avez été le boss du 36. Bonjour Charles Diaz. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien de la police, vous avez été inspecteur de la PJ, vous êtes aujourd'hui commissaire général honoraire de la police nationale. On vous doit, hop, je vais sortir le bouquin, tu l'as à côté de toi Dominique, ouais, parce que j'ai des bouteilles d'eau qui sont dessus, voilà. C'est du direct. Oui, bon, en même temps, c'est à l'antenne. Le 36.
La couverture est dure, on peut plaisanter là-dessus.
L'histoire des 36 illustrés, qui a des orfèvres, racontée par son ancien patron. En réalité, on a de la chance, on n'a pas un, mais deux anciens patrons du 36, parce que Christian Flèche est également avec nous. Bonjour, Christian. On avait très envie que vous soyez là, vous aussi aujourd'hui, parce que vous avez aussi dirigé le 36 quai des Orfèvres de 2007 à 2013. Vous avez débuté même, je crois, votre carrière à la PJ parisienne. Je disais tout à l'heure, trois grands flics se mettent à table. Enfin, presque quatre, hein, Dominique, en non. réalité.
J'aurais bien aimé être flic, tiens.
Un petit tour de table pour commencer, parce qu'on a tous envie de savoir. D'abord, quel est votre souvenir le plus marquant au 36, au moment où vous le dirigiez ou pas, d'ailleurs? Qu'est-ce que...
C'est une question qui est souvent posée.
Bah oui, j'imagine.
Alors, il y a un très mauvais souvenir. Vous savez, lorsqu'on exerce ce boulot de flic, on est avant tout homme avant d'être flic et on sait qu'on prend des risques, que nos collaborateurs en prennent aussi. Et lorsqu'on a un collègue au tapis, 31 juillet 78, fusillade à l'ambassade d'Irak, Jacques Capellan. J'étais jeune commissaire à la crime, lui était inspecteur. Il était de congé ce jour-là, il rentrait de vacances au 1er août. Et il y a eu une prise d'otage, il est venu, et il y a eu une fusillade à la fin de la prise d'otage. Il en est mort, il est mort.
Vous lui rendez hommage livre, plusieurs pages avec des photos, beaucoup de photos d'archives.
On ne peut pas oublier que mes collègues n'ont pas oublié, même si ils n'étaient pas là.
Même les plus jeunes.
Et puis alors, oui. Et puis alors, une affaire qui m'a beaucoup marqué, mais dans... vraiment un bon souvenir, c'est la prise d'otage Human Bomb Manaï en 93.
On se souvient parce que l'affaire Schmitt se termine bien. Fort heureusement, après deux jours durant lesquels on a cru que Human Bomb allait faire sauter la salle de classe avec à l'intérieur tous ces enfants qui s'y
On a eu l'épée de Damoclès pendant 40 heures. Mmh. On savait qu'il avait avec lui. Les techniciens du laboratoire central nous avaient indiqué que il avait amené de l'explosif, il pouvait faire
sauter. Eric
Schmitt, voilà. Voilà. Human Bomb, il s'appelait.
La salle était truffée d'explosifs. Hein.
Alors, il y avait un décalage entre son comportement vis-à-vis des gosses. On a senti tout de suite que, contrairement à ce qu'il avait écrit dans ses documents qu'il nous avait amenés, qu'il voulait faire des prises de sang aux gosses, enfin, c'était affreux. Mais on a bien compris qu'il ne voulait pas faire du mal aux gosses. Par contre, à tout moment, il pouvait appuyer sur le détonateur et faire sauter la classe. On est passé à deux doigts de la catastrophe.
Et il a fini par être intercepté. Il n'y a pas eu de victime. Tout s'est bien terminé, si je puis dire. C'est pour ça que vous parlez d'un bon souvenir. Oui. Charles Diaz, quel souvenir très fort retenez-vous de votre histoire du 36?
Notre arrivée rue des Rosiers, en août 1900.
L'attentat de la rue des Rosiers.
Voilà. Donc, Claude était le chef de la brigade criminelle par intérim. Et nous sommes arrivés là-bas. Il y a des morts partout.
Vous avez l'air encore marqué.
Oui, parce que c'est des souvenirs hier, mais... qui vous marquent. Quoi. Ouais. C'est pas si simple que ça. Et puis après, l'enquête qui a suivi, qui était plutôt compliquée, avec des ramifications internationales rapidement.
Qui n'est pas terminée, puisque l'un des auteurs est encore en prison. En France.
Oui.
Et si on flèche.
Alors, nous, quand j'étais directeur, on a rendu hommage à Jacques Capellan, puisque on a peu de constructions neuves dans les vieux bâtiments du Quai des Orfèvres, mais il y a eu un jour, on a créé une salle de crise, on avait eu de l'argent, on a créé quelque chose qui avait un peu de tête, de gueule, et on a décidé de la baptiser du nom de Jacques Capellan, et donc il y a eu une petite cérémonie avec la famille, de façon à pouvoir officiellement dire que la salle de crise du Quai des Orfèvres s'appelait salle Jacques Capellan. Après, sur la période où moi j'étais à la brigade criminelle.
2007-2013.
J'étais à la brigade criminelle.
Vous dirigez le 36.
83-88. Oui. Donc, je me souviens des meurtres de personnes âgées dans le 18e. Là, on en avait régulièrement. Et c'était horrible parce que on patinait, on n'y arrivait pas jusqu'au moment. Et c'était, il n'y avait pas encore de fichiers automatisés. Donc, il y avait des comparaisons qui étaient faites à l'épiscope par des inspecteurs à l'IJ. C'était un truc, c'était artisanal. Et puis,
Thierry Paulin.
Il y avait aussi cette période d'attentats, parce que on l'oublie, mais dans cette période de 85-88, il y en avait en permanence des attentats. Il y avait Action Directe dans ces différentes branches. Ouais. Il y avait 1986, le comité de soutien aux prisonniers politiques d'Arabes, etc., le CSPPA.
L'assassinat de Georges Besse.
Georges Abdallah vient de sortir de
prison. Georges Besse, les tentatives d'assassinat contre l'inspecteur général, l'ingénieur général, le contrôleur général, pardon, des armées, Blandin, plus évidemment ce qui nous a tous marqué, l'attentat qui n'a pas visé le quai des Orfèvres parce qu'il y avait trop de mesures de sécurité, mais qui a visé le quai de Gèvres où on a perdu tous, Marcel Badevant, qui était chef inspecteur divisionnaire à la brigade de répression du banditisme. Et là, je me souviens très bien puisque j'étais dans mon bureau, tout jeune commissaire à la crime, le directeur de l'époque, Touraine, passe pour chercher le chef de la brigade criminelle, il tombe sur moi et il me dit « Il y a un attentat qui est de Gèvres, vous y allez, peut-être que c'est une explosion de gaz. » Enfin, on était loin d'imaginer qu'on ait eu un attentat. Et moi, pour la première fois de ma vie d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais on voyait des attentats régulièrement, c'était des bombes qui étaient posées devant les façades d'immeubles. Donc, il y avait un cratère, il y avait des destructions, il y avait des fenêtres et des vitres qui tombaient. Et là, c'était une bombe dans un bâtiment. Mmh. Voilà.
C'était Max Frérot.
Max
Action
Frérot,
directe.
Ouais.
Alors,
quelques années plus tard, évidemment, le terrorisme du GIA islamique, du GIA algérien en 95, évidemment, le RERB, Station Saint-Michel, 8 morts, une centaine de blessés, des souvenirs que j'imagine pour vous sont encore très très
forts. Pour faire un lien avec BFM, Descartes, qui est celui qui a tenté de tirer dans le hall de BFM dans vos anciens locaux, et où il y a eu pour la première fois, presque une chasse à l'homme en direct, puisque vous suiviez, évidemment, étant impliqué, vous suiviez la chasse à l'homme, et nous, on a réussi, avec un travail remarquable de la criminelle, de la BRI, à le retrouver.
On a donné avec Jean-Baptiste Boursier, à 22h30, le nom d'Abdelhakim Descartes, confirmé par vous et le préfet Cadeau, à 2h du matin.
Non, c'était pas le préfet Cadeau.
C'était le préfet
Boucaud.
Boucaud, ça se ressemble. Et... Alors, moi, ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est qu'il y a un ton. Il y a un temps, alors on retrouve tous les anciens, Lucien Léger qui a tué le petit Luc Taron en 64 dans le Bois de Verrières. C'est pour ça que le Bois de Verrières a parfois aussi cette mauvaise réputation. Tous ceux qui veulent y faire du sport, on dit c'est un endroit. Donc il y a Jean-Marie Bastien Thiry, l'attentat contre le général de Gaulle, le petit Clamart. Et puis il y a Pierrot Le Fou. Alors moi j'ignorais qu'il s'appelait même les légendes. Il y a un ton dans la rédaction du bouquin, même les légendes sont écrites par des flics. Ça se voit.
C'est-à-dire
alors, Pierre Loufou, il s'appelle Pierre Loutrel. Moi, je savais pas. Bon, alors la légende, c'est Pierre Loutrel, alias Pierrot la valise, Pierrot la voiture ou Pierrot le fou. Il aime l'argent, les femmes, les belles voitures et les courses cyclistes. Ça, c'est du ton de policier. C'est pas du journaliste, c'est du ton de policier. Ça. Tout est résumé en un seul personne.
C'était le banc d'extraction avant qu'on retrouvera. Dans l'enlèvement de Ben Barka, 20 ans plus tard, Bouche sèche, Atia.
Bouche sèche, les noms de ces types.
Pierrot Le Fou était mort parce que, si ma mémoire est bonne, Charlie, il est mort en se tirant une balle accidentellement.
Oui, oui, à la sortie d'un braquage, du braquage d'une bijouterie, il monte dans la voiture et s'enfuit rapidement et en rangeant l'arme à sa ceinture, le coup de feu part et il en mourra. Mais pendant des années, on n'a pas su qu'il était mort. Ouais. Et il a fallu des révélations faites par une amie pour qu'on le découvre dans une île.
L'île de Gilliers sur la Seine. Ça aussi, on l'apprend dans le livre. Il y a tout un tas de choses dans ce bouquin.
Et alors,
on n'avait jamais lu nulle part.
Il y a plein de photos, il y a des visages en pagaille. Il y a les vôtres aussi. Alors, ça date pas d'aujourd'hui, hein, si je puis me permettre.
Non,
quand c'est Charles Diaz, c'était quoi ces photos-là? C'était,
On était tous pris voyous.
Quand vous arriviez au 36.
Voyous et flics sur le fauteuil de Bertillon, de face, de profil, nos paluches, nos empreintes.
Ah oui. Et on était signalisés comme au temps Bertillon.
Et à ce moment-là, vous faisiez partie de la famille, du 36.
Exactement. Et on vous donnait votre arme. Alors moi, la première fois que je suis rentré avec mon arme dans une banque pour tirer de l'argent, ça fait très drôle.
Vous n'êtes pas sympa, ça ils montrent les photos. Ouais.
Oui, bien sûr. Sympa, mais non, mais parce que, pourquoi Parce que, bon, déjà, ça renvoie au mythe du 36, ça c'est secret.
C'est vous, ça
à tout. Oui, ce sont nos deux invités, oui, Dominique. Et on rentrait ainsi dans la famille. C'est ce que vous racontez aussi dans ce livre. Il n'y a pas que des histoires, des drames aussi, parce qu'on le dit avec le sourire, mais c'est une histoire de famille, le 36.
Quand on parlait du 36, on ne parlait pas du 36, on disait la maison. La maison, ce n'était pas le domicile. Et nos épouses comprenaient très vite que la maison, le 36, allait passer avant la maison familiale.
On a du mal à le quitter, le 36, Christian Flesch, quand on y a passé autant de
temps. Oui, c'est sûr, parce que c'est très intense, et c'est l'intérêt de leur livre, c'est d'arriver à faire ressentir à la fois les liens qu'il peut y avoir avec des bâtiments qui étaient complètement inadaptés au fur et à mesure, qui n'étaient pas du tout aux normes de sécurité d'ailleurs, ni de la partie police, ni la partie justice. On respectait, à mon avis, aucune règle en matière d'incendie, en matière d'accessibilité. Et puis, il y a l'ambiance qu'il y a par cette proximité, ce que vous mettez dans votre bouquin, et puis l'ambiance particulière des groupes de la PJ. Ça, c'est quelque chose qui est très fort en PJ, c'est l'ambiance du groupe avec un chef et puis une équipe qui travaille de concert sur un ou des dossiers.
La criminelle, la BRI, sur place, dès qu'il y avait une affaire, quand ils étaient saisis, un enlèvement, tout de suite, tout le monde était mobilisé et on passait notre vie.
La BRI qui est toujours au 36.
Qui est toujours, c'est le seul service.
Le seul service, toujours au 36, qui est désormais fait, parce que, en 2017, quasiment tout le monde a déménagé, dans un autre 36 d'ailleurs, qui n'existait pas dans la rue, mais on l'a créé spécialement.
Ouais.
36 rue du Bastion, à l'autre bout de Paris, dans les nouveaux locaux, à côté du nouveau palais de justice de Paris. C'est ça aussi, le mythe du 36.
Ouais, comment ça s'est décidé? En fait, il y avait, bon, comme je viens de l'évoquer, on n'était pas du tout aux normes. Donc, il y avait une nécessité de respecter les normes d'incendie, de respecter les normes d'accessibilité, puisque il n'y avait aucun ascenseur dans ce bâtiment. Donc, ça veut dire que les personnes âgées, ça veut dire que quand une femme était enceinte, il fallait trouver des subterfuges pour qu'elle puisse continuer à arriver à son bureau en passant par le palais de justice avec une porte dérobée pour arriver dans la partie police. C'est compliqué. Donc, en 2007, le ministre de l'Intérieur est devenu président de la République. Le directeur de la police judiciaire, mon prédécesseur, Pechnard, est devenu directeur général de la police. Le directeur général de la police est devenu préfet de police. Donc, il y avait une conjonction pour que, tout le monde étant convaincu, on lance le dossier d'un nouveau bâtiment pour la police judiciaire parisienne, qui a pris énormément d'argent sur les bâtiments, sur le budget du ministère de l'Intérieur. Donc, c'était un vrai sujet qui a duré une dizaine d'années avant qu'on en arrive. Et entre les deux, entre 2007 et 2017, il y a eu les attentats de 2015. Mmh. Et la BRI, qui était prévue pour être à une cinquantaine dans des locaux futurs, a doublé ses effectifs. Et là, ils ne rentraient plus dans les locaux qui étaient prévus. Après, il y avait une idée de les laisser au centre de Paris. C'est comme ça qu'ils sont les seuls à être restés dans les bâtiments qui ont été rénovés. La partie de la BRI du 36 a été rénové de façon remarquable et ils vivent très très bien dans des locaux qui sont superbes.
Je vois Dominique qui écrit tout ce que vous dites. Je sais pas si ce que vous dites, Dominique.
Non, je prenais donc.
Et cette BRI a fait des petits à travers la France. Il se passe pas une semaine sans que vous entendiez la BRI avant-hier, ou hier.
Bien sûr.
À Nice, je crois, la BRI avait Guigoret interpellé l'auteur de l'assassinat.
Cet homme qui a tué de plusieurs balles dans 200 francs une jeune femme
au
volant de sa voiture à Nice.
Quand François Lemoine crée ses services, il considère que ces gens passent trop de temps devant les machines à écrire, passent plus de temps devant les machines à écrire que sur le terrain, et crée ce service avec l'idée, pas de papier. Pas, ouais. Ils font du terrain, ils arrêtent en flagrant délit. Voilà. Et vous savez, ce dont souffrent nos collègues à l'heure actuelle, c'est qu'ils passent plus de temps devant leurs ordinateurs que sur le terrain.
Et vous voyez, là, il y a du lourd autour de la table. Là, il y a vraiment du lourd. Et quand je vous vois, j'ai l'impression que la police, c'est un peu comme le rugby. Vous vous retrouvez tous, alors je notais quelques noms, alors... Cancès, Dias, Flesch, Mancini, Fiamingui, Pechnard, j'oublie qui encore, allez-y.
Kerry,
Roger.
Kerry.
Broussard.
Broussard, ouais.
Broussard.
Martin Montaigne.
Ouais, Martine ouais. Monteil. Et en fait,
ah, c'est l'amical des anciens là aujourd'hui.
Ouais, ils se retrouvent tous. Non, non, mais ils se retrouvent tous. Alors que nous, journalistes, il y a une solidarité chez nous dans les rédactions. Ouais. On est des potes. On travaille le jour, la nuit, le week-end, le 1er mai, Noël, jour de l'an. On n'a plus tellement de famille pour ceux qui ont réussi à en garder une. Ou voilà, on a finalement le même mode de fonctionnement que vous. Mais on fonctionne pas comme vous. C'est-à-dire que après, bon, quand on part dans des rédactions différentes, on se revoit plus comme vous, les anciens de la police, les flics. Vous êtes une équipe, quoi.
Bien sûr. J'ai travaillé avec Charlie et Claude Charles a été mon chef.
Et Claude Cancès. Merci, on est obligé de s'arrêter là, mais ouais, on peut poursuivre hors antenne, hein, pourquoi pas. Merci merci infiniment, merci à tous
les
trois de nous avoir rendu visite dans l'affaire suivante. Merci mon homme.
Merci François.
L'histoire du 36 illustré, voilà. On le remontre ce livre que vous pouvez trouver dans les librairies. François. Passionnant.